Alors moi je suis pas journaliste de guerre, je suis journaliste tout court. Je parle davantage de société, d'actu internationale en général, donc ça m'est arrivé évidemment de parler de certains conflits, mais j'ai rarement fait du terrain, j'en ai fait quelques fois mais pas beaucoup. Alors comment je suis arrivé là? En fait moi je viens plutôt de la pub et de la sociologie à la base. C'était des études très intéressantes, j'aimais beaucoup ça, mais très vite j'ai commencé à m'intéresser à l'univers des médias. J'ai travaillé dans une radio, une petite radio locale très sympa qui s'appelle Radio Campus Tours, je crois que vous connaissez.
Ça me dit quelque chose,
Et voilà.
effectivement.
Et puis très vite, j'ai eu la chance de partir à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, et puis une grande expérience de plus de 2 ans au Maroc. Donc voilà, moi j'ai que 27 ans, ça fait pas si longtemps que ça que je travaille, ça fait 5 ans que je travaille. Et voilà, et donc comme vous l'avez dit en préambule, j'ai écrit un livre qui est sorti il y a quelques semaines sur ce métier qui est à la fois détesté, qui est, enfin détesté le mot un peu fort, disons qu'il suscite une méfiance généralisée, et j'ai voulu m'intéresser à pourquoi.
Alors on va parler du livre en particulier en deuxième partie d'émission, mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur un peu ce qu'est le journalisme en France et d'ailleurs dans le monde, hein, puisque la situation française, c'est une situation qui se retrouve partout ailleurs presque dans le monde, notamment avec l'évolution des nouvelles technologies, et de voir un peu ce qu'est ce métier aujourd'hui et pourquoi il est si critiqué et pourquoi.
Bah, quand une personne assiste à un événement, ce qu'il y a de pire pour elle, c'est de voir ce même événement retranscrit dans la presse, dans les médias, d'une façon totalement différente de la façon dont il a vécu. Et aujourd'hui, il peut arriver qu'il y ait plusieurs réalités, et que la réalité qui est retranscrite dans les médias n'est pas forcément celle qu'on a vécue. Je prends un exemple très rapide. Quand on participe à une manifestation, on est au milieu d'un cortège, il y a 200 000 personnes. On marche en silence, on fait juste les slogans habituels de la manif, etc. On n'a pas l'impression que de participer à quelque chose de grave, etc. Et puis, tout à la fin de la manif, nous on le voit pas, mais tout à la fin de la manif, il y a 30 mecs qui foutent le bordel, qui cassent tout, etc. Et puis le lendemain, vous regardez les journaux et vous voyez en une les 30 casseurs, et vous avez l'impression que les médias vous mentent parce que vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir vécu ça. Et aujourd'hui, il y a un pluralisme des médias en France qui fait que bah on trouve beaucoup de médias avec lesquels on sera pas spontanément d'accord. Donc il y a une méfiance généralisée parce qu'on a l'impression que les médias nous mentent, que ils racontent pas la vérité, que ils servent des idéologies qui sont pas forcément les nôtres, etc. Donc tout ça a fait que le métier est devenu de plus en plus contesté.
Pourquoi on a cette sensation qu'ils nous mentent? Pourquoi en regardant le journal le matin ou en allant sur un site web, parce qu'aujourd'hui le journalisme c'est aussi beaucoup par internet, pourquoi on a cette impression que le journalisme ment? Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question d'intérêt aussi? Parce que il faut le dire aussi, certains journaux sont possédés par des grands groupes qui ne sont pas forcément tout le temps.
Bien sûr.
Les journaux ne sont pas tout le temps très indépendants.
Bien sûr. En fait, il y a un sentiment généralisé. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure à propos du livre, mais on a l'impression que les journalistes commentent plus qu'ils n'informent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est systématiquement dans le commentaire. Alors, on pense souvent aux chaînes d'information continue où on voit des éditorialistes en costume cravate qui ont un avis sur tout et qu'il faut jamais contredire, etc. Mais c'est vrai aussi dans la presse, quand vous ouvrez des hebdomadaires assez connus comme Le Point, L'Express, etc. Ça commence souvent par 10 pages d'édito. On attend la 11e ou la 12e page avant d'avoir un article de fond. Donc c'est forcément, on a l'impression qu'il y a de la vie en fait, alors que nous on cherche de l'info. Et en plus c'est paradoxal parce qu'on arrive à une époque où avec les réseaux sociaux, les blogs, internet, etc., commenter tout le monde peut le faire. Donc on attend des journalistes un petit peu autre chose au final. Mais en même temps, il y a une responsabilité du public aussi, à savoir ce qu'il veut. C'est un exemple tout bête, mais quand vous demandez à quelqu'un sa chaîne préférée, il va vous dire que c'est Arte. Et puis ça n'empêche pas de regarder Cyril Hanouna sur C8. Donc quelque part, il faut être conscient de notre responsabilité, nous, en tant que public, à savoir exactement ce qu'on veut. Et puis quand vous allez sur Twitter, par exemple, c'est flagrant. Vous voyez le nombre de gens qui critiquent ce qu'ils sont en train de regarder, en disant ce que je suis en train de regarder, c'est de la merde, c'est nul, etc. J'ai envie de leur dire, mais change de chaîne, fais autre chose, sors, je ne sais pas, informe-toi autrement. Et puis je pense qu'il y a une difficulté aussi dans la manière de s'informer. On peut parler d'éducation aux médias, même si les gens ont l'impression que c'est un gros mot parce qu'on va leur infliger une idéologie. C'est pas ça. C'est l'éducation aux médias, c'est apprendre à comment s'informer, bien s'informer, etc. Je pense que le besoin de s'informer qui est vital dans notre société, il doit s'accompagner aussi d'un devoir de s'informer. Comment on s'informe, à quelle fréquence, qu'est-ce qu'on regarde, etc. Si vous regardez une seule et même émission qui est idéologiquement un peu placée et que vous la regardez tous les jours, eh ben, forcément, vous aurez le sentiment que les informations sont idéologiquement passées. Aujourd'hui, on est dans un pays où il y a un tel pluralisme que si on veut vraiment être bien informé, on peut être bien informé.
Tu parlais de la rapidité de l'information aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, Twitter, les blogs. Qu'est-ce qui différencie finalement ces informations-là du vrai travail journalistique?
C'est la vérification. Par exemple, quand vous avez une vidéo qui circule lors des attentats de Paris, une vidéo qui circule sur Twitter, qui est virale parce que c'est le principe de la vidéo, et puis bon bah tout le monde clique dessus parce que c'est un réflexe, etc. Si cette vidéo-là est traitée par une chaîne d'information, qu'elle sort dans un média, a priori, il y a la promesse qu'elle a été vérifiée, que l'information a été recoupée. C'est ce qui va faire la différence entre le journaliste de profession et celui qui s'improvise journaliste. Parce qu'on a tendance à dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., tout le monde est journaliste, mais il y a. Le vrai travail de journaliste, c'est non seulement de rapporter les faits, évidemment, ça fait partie de la matière grise de son boulot, mais c'est aussi de vérifier, de recouper, etc. Donc c'est la différence qui peut y avoir.
C'est un métier qui est à la fois passionnant pour beaucoup, puisqu'il pousse à la recherche justement d'informations, parfois au voyage aussi ou à aller sur le terrain. C'est un peu paradoxal qu'il soit détesté, mais qu'il soit à la fois pas, enfin, passionnant comme ça.
Oui, c'est vrai, c'est un peu ce qui m'a poussé d'ailleurs à écrire le bouquin, parce que je me suis dit, un métier qui moi me fait rêver depuis tant d'années, pourquoi est-ce qu'il est aussi. Pourquoi il suscite autant de méfiance? Et en même temps, bah, tu l'as dit tout à l'heure, le fait que des médias appartiennent à des riches milliardaires, etc., ça peut poser des questions. Est-ce qu'on se dit, est-ce que finalement ils servent pas que leurs intérêts? Est-ce que les journalistes n'ont pas certaines lignes rouges qu'ils peuvent plus franchir, etc. Donc. Forcément, on commence à être méfiant. Et puis, il y a des épisodes, par exemple, on parle beaucoup de politique parce que c'est souvent très lié. Il y a des épisodes en politique qui peuvent déplaire à un certain lectorat. Et puis, parce que j'allais dire, ils détruisent un peu le candidat qu'ils soutiennent. Et du coup, bah, c'est automatique. Ils se disent, bon, bah, vu qu'ils détruisent notre candidat, on leur fait plus confiance. Bon, voilà. Et pourtant, je prends l'exemple de Fillon parce que ça parle à tout le monde avec la dernière campagne présidentielle qu'on a suivie. Beaucoup de journalistes ont reproché un acharnement sur François Fillon. S'il y a eu un acharnement, il vient de la part des commentateurs, de ceux qui commentent, donc les éditorialistes. Après, les journalistes, ce ne sont pas les journalistes qui ont employé leur femme pour rien faire. Ce n'est pas les journalistes qui ont accepté des costumes à 13 000 euros en pleine affaire, etc. Donc ça, il faut pas non plus, faut faire attention à pas rejeter la faute sur les cibles faciles. Les journalistes sont souvent des cibles faciles.
Tu m'as ôté la question de la bouche parce que j'allais justement venir au cas Fillon, parce que finalement c'est le dernier gros exemple en date
Bien sûr.
où il y a vraiment eu, on a vraiment senti un désamour pour le métier de journaliste, où il y a eu toute une partie, alors souvent des gens de droite puisqu'ils
Bien sûr.
défendaient Fillon, mais qui ont critiqué notamment le Canard Enchaîné. D'où elle vient cette haine? Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on soit pas d'accord, parce que finalement, c'est révéler une vérité qui fâche, en l'occurrence.
Bien sûr.
Et du coup, il y a un peu voilà,
Mais
c'est cette vérité qui éclate au
la
grand jour, du
relation
coup.
entre le public et les journalistes est violente, parce que la société est violente de toute façon. Donc si y a des choses qui nous plaisent pas, parce que je parlais de cibles faciles, les journalistes en sont une parfaitement, parce qu'on a tendance à dire, mais c'est vous qui mettez de l'huile sur le feu, c'est l'expression qu'on entend assez régulièrement. Non, les journalistes, ils font que leur métier, ils rapportent des faits, parce qu'ils estiment que ces faits-là sont pas forcément normaux. On parle souvent des trains qui arrivent en retard, on parle pas de ceux qui arrivent à l'heure, parce que voilà, on s'en fout. On parle de ce qui sort un peu de l'inhabituel. Après, que ça plaise pas ou non, ça c'est, j'allais dire, notre métier ne consiste pas à faire plaisir aux gens. C'est pas, ça a jamais été notre métier. Notre
Oui,
métier, c'est d'informer. Après, si le monde est rempli de nouvelles qui sont pas forcément heureuses, c'est pas forcément la faute des journalistes.
C'est vrai qu'il faut, il faut insister sur ce point-là. Le but des journalistes, c'est pas de faire la promotion, et parfois la limite est assez friable entre promotion et.
Bah oui, surtout quand vous invitez des responsables politiques plutôt que d'autres, ou etc. Il y a toujours une part de, par exemple, des candidats à la présidentielle qui étaient moins présents dans les médias. Ils jouaient beaucoup de cette carte-là en disant mais c'est scandaleux, c'est antidémocratique, vous recevez plus un tel que nous, etc. Oui, effectivement, il y a des choix éditoriaux qui sont faits, et puis bon, il y a des règles aussi de CSA, enfin ça c'est autre chose, mais il y a des choix qui sont faits, et on peut leur reprocher ça, mais je vous dis, par rapport à d'autres pays, et moi j'ai eu la chance de vivre notamment au Maroc, où le pluralisme n'est pas le même, honnêtement, il faut pas que le public français non plus soit enfant gâté, c'est-à-dire que vous allez, je sais pas moi, en prenant la presse papier par exemple, vous allez de l'Humanité. À valeur actuelle, vous avez quand même un panel très très large de ce que peut être la presse en France et les idées qui vont avec. Donc c'est aussi au public de s'informer et d'essayer de puiser un peu partout et de voir, de créer son propre avis, sa propre opinion après.
Par rapport au Maroc où tu as été et au Canada du coup, est-ce que on a à se plaindre finalement de nos journalistes en France ou est-ce qu'on a de la chance plutôt de les avoir et d'avoir quelque chose qui garantisse finalement la liberté d'expression et la pluralité des points de vue.
Bah, moi, vous allez me dire que je défends la profession, mais je la défends parce que je l'aime, mais je pense que 99% des journalistes en France sont des gens qui font honnêtement leur boulot. Je pense que c'est le cas aussi dans d'autres pays. Au Canada, c'est la différence qui m'a marqué, si vous voulez, c'est qu'en France, on blablate beaucoup, parce qu'on sait écrire, on sait bien écrire. Y a des gens qui ont une jolie plume, etc. Et de temps en temps, on a tendance à écrire des romans pour finalement faire une information qui pourrait tenir en trois lignes. Au Canada, ils sont un peu plus directs, un peu plus francs du collier, et du coup, c'est ce qui m'a marqué. Il y a peut-être moins de récits. Voilà, c'est une différence que j'ai notée. Par contre, par rapport au Maroc, c'est surtout la question des barrières. En France, il n'y a pas beaucoup de sujets dont on peut parler. Au Maroc, par exemple, il y a quand même beaucoup de sujets. On ne peut pas parler du roi, on ne peut pas critiquer le roi, on ne peut pas critiquer la religion dominante, donc l'islam. On peut difficilement parler de la question du Sahara au sud du Maroc, qui est une région avec des indépendantistes, et puis le Sahara est marocain selon le Maroc. Donc voilà, c'est des sujets qui sont très compliqués à aborder. En France, honnêtement, il y a moins de sujets très compliqués, inabordables. Après, sur la qualité des journalistes, honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui font, il y a beaucoup de gens qui font très bien leur boulot.
Est-ce que les journalistes sont pas aussi un peu mal vus ou détestés ? Bon, détester, le mot est peut-être un peu fort, parce que ils ont ce côté un peu prétentieux, un peu moi, c'est moi qui sais, c'est moi qui ai l'information, c'est moi qui ai la connaissance, parce que c'est aussi un,
ouais, c'est vrai.
Un pouvoir de domination, la connaissance.
Il y a un ego, c'est vrai. Il y a un ego assez présent chez les journalistes. Quelque part, c'est intéressant parce que ce ne sont pas des créatifs, mais il y a une part de création dans leur boulot parce qu'on va chercher l'information, on a des faits, et puis dans la manière de les formuler, dans la manière de présenter une histoire, etc., il y a un côté créatif. Et comme beaucoup, beaucoup de métiers créatifs, les gens ont un ego parce que dès que tu remets en question certains trucs...
Pas assez personnel, voilà, en fait, c'est vraiment...
C'est compliqué. Après, moi, j'ai... Encore une fois, il faut faire la différence, et le grand public l'a fait difficilement, mais on ne peut pas tellement lui reprocher, entre ceux qui commentent et ceux qui informent, l'historialiste et ceux qui donnent leur avis sur tout, ont beaucoup plus d'ego que les journalistes qui, eux, se contentent des faits, et voilà.
La haine du journalisme, là on peut vraiment parler de haine, elle a atteint son paroxysme finalement avec Charlie Hebdo. Qu'est-ce que tu penses déjà de...
Pour moi, c'est quand même... différent, enfin c'est pas du tout là on avait beaucoup parlé à l'époque de haine du journaliste parce que ces gens-là croyaient à une doctrine complètement folle qui consistait à tuer des gens qui avaient critiqué, etc. Pour moi, c'est pas du tout la même haine que peuvent avoir des gens, ou en tout cas la méfiance que peuvent avoir des gens lambda qui sont intégrés dans une société. Enfin, je veux dire, pour moi, ce sera deux choses différentes. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, on avait beaucoup parlé de de la responsabilité des journalistes, etc.
Pourtant, je vais parler de moi, ce que j'ai pu vivre, parce que je viens d'une formation journalistique. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de créer des blogs et j'ai un ami qui a été menacé de mort parce que il avait tenu un blog sur les réfugiés en France, etc. Menacé de mort. Et là, c'était pas par une organisation terroriste.
Ouais.
Donc, et c'est
Bah,
vraiment.
après des gens complètement farfelus et qui ont tendance à voir dans les médias quelque chose d'horrible, qui manipule tout le monde, etc. Et on aura toujours une poignée, mais après, je connais pas le cas de ce garçon, mais je pense que les gens peuvent avoir une méfiance, après, qu'il y ait une haine qui est un sentiment de vengeance, enfin, honnêtement, pas beaucoup. Par contre, il y a une méfiance qui, elle, pousse quelquefois à la violence. Je pense notamment à des gens des journalistes qui sont sur le terrain, qui vont couvrir des manifestations et qui sont bousculés, qui sont hués, etc. Là, c'est pas très
Parfois
agréable,
frappé
mais c'est
aussi.
souvent parfois frappé. Mais on notera que c'est souvent dans des manifestations tout à gauche de l'échiquier politique ou tout à droite. En général, il y a beaucoup de candidats en politique, par exemple, qui ont surfé sur cette haine des médias pour s'attirer les faveurs des gens qui, une fois dans leur vie, avaient une anecdote où les médias les ont déçus. Voilà, c'est toujours comme ça. Mais c'est surfer sur une vague qui, à mon sens, marche pas très bien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est des quatre candidats à la présidentielle. Celui qui arrive premier, c'est celui qui a jamais fait huer des journalistes dans la salle. Donc peut-être que finalement, surfer sur cette vague ne suffit pas à se faire élire.
Bon, je te propose de faire une petite pause musicale pour un peu s'aérer l'esprit, parce que c'est vrai que c'est un débat bon, qui est passionnant, mais qui peut amener à l'extrême, en fait, tout simplement. Je vous propose, chers auditeurs, d'écouter Manast, Based and Devilish, et on revient tout de suite après sur Radio Campus Tour. C'est parti. On est de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM et on est toujours avec Benjamin Bousquet qui est journaliste freelance et qui nous parle de ce sujet passionnant déjà du sujet du journalisme et pourquoi le journaliste est-il si détesté. Avant de reprendre un peu les choses sérieuses, j'ai préparé un petit quiz pour toi, Benjamin.
Allons-y.
Alors le but, c'est vraiment de répondre en quelques mots à la question. Première question, est-ce que tu es prêt?
Mais absolument.
Le journal que tu lis tous les jours.
Il n'y en a pas qu'un. Mais
Ou alors que tu lis le plus régulièrement.
je vais dire Le Monde et j'écoute surtout France Info.
Très bien. Si tu n'avais pas été journaliste, qu'est-ce que tu aurais fait?
Bah
Ton second choix.
moi, j'ai commencé dans la pub, j'aimais bien ça. Ça m'amusait de créer des slogans, de créer des campagnes. Voilà, ça me faisait marrer. Il y a un côté créatif qui est assez rigolo.
Toujours dans la création, toi. Comme le journalisme, on l'a dit, c'est côté créatif.
C'est ça. Sauf qu'en publicité, on peut se permettre justement d'imaginer des trucs complètement farfelus, ce qui est reproché dans le journalisme.
Ouais, effectivement. Troisième question. Le projet, pardon, journalistique le plus fou que tu aimerais mener, ou alors un reportage que tu aimerais bien faire, ou vraiment la chose qui te tient vraiment à cœur.
Moi, j'ai vécu 2 ans au Maroc où j'ai fait pas mal de reportages en Afrique. Il y a un train, je sais plus, c'est le Rovostrail, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, qui traverse 10 pays d'Afrique. J'aimerais faire ça et les faire en photo. Ça me ferait
Un
marrer.
reportage photo là-dessus.
Ouais, ça me ferait assez marrer.
Un de tes journalistes préférés ou le meilleur journaliste selon toi?
Oh, le meilleur journaliste, je sais pas, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas un
Oui,
concours
c'est vrai.
sportif,
Ouais.
mais il y a une journaliste que j'aime beaucoup, c'est Anne Niva, qui est reporter de guerre, prix Albert Londres, etc., qui a une femme de caractère, j'aime beaucoup. En général, j'aime bien ses livres, j'aime bien ses interventions à la télé, et surtout sa vision du métier qui me correspond à la mienne.
Dernière question qui va permettre de faire la transition un peu sur la deuxième partie de l'interview. La critique que tu as le plus entendue quand tu dis ou quand tu as dit que tu étais journaliste, spontanément.
Il y en a pas mal.
C'est-à-dire, je suis journaliste. Oh, bah, t'as un salaud de vendu!
Ouais, c'est ça. C'est vous rebond... Non, la critique qui revient souvent, c'est le fait de rebondir sur des petits buzz et sur des petites phrases qui n'apportent rien au débat. Et c'est une critique à laquelle je suis assez d'accord en général. On a peut-être trop tendance à passer beaucoup de temps sur des choses qui n'en valent pas la peine.
Et ça, c'est vrai pour...
Pour tous les journalistes, mais
Voilà.
c'est le buzz facile. Mais tout à l'heure, je parlais de la responsabilité du public. c'est aussi le public qui clique sur les articles buzz à la con, sur je sais pas, le dernier en date, c'est le bordel de Emmanuel Macron. On a passé une semaine là-dessus. À un moment donné, on parle pas du fond. On a oublié pourquoi il était venu dans cette boîte et est-ce que manifestaient les gens dehors. Donc ça n'apporte rien.
On parlait. Alors du coup, on a fini avec le petit quiz. J'ai pas encore de jingle, mais faudrait que j'en trouve.
Bah oui.
On parlait en antenne du côté finance du journalisme. C'est vrai qu'il faut aussi le rappeler aux auditeurs que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution et qui est un peu dans une phase, alors j'aime pas tellement le mot crise, mais de restructuration, on va dire, mais avec des problèmes aussi financiers. Donc d'indépendance aussi, puisque l'argent doit bien venir de quelque part, etc. Est-ce que c'est un métier qui est viable finalement à long terme ?
Bah, je pense que c'est viable parce que de toute façon, les gens auront toujours besoin de s'informer. C'est, je le disais tout à l'heure, c'est devenu un besoin primaire comme se vêtir, se loger, se nourrir, etc. Après, il faut, là où je ne suis pas souvent d'accord avec les interlocuteurs avec qui je parle quand on parle de ce métier et qui sont souvent remontés contre ce métier, c'est que généralement, les gens ont la sensation que l'information est gratuite, qu'il n'y a pas de prix à l'information. Alors que pour moi, l'information a un coût. Le fait d'envoyer des journalistes au plus près du terrain pour avoir de l'exclu, pour avoir de la vraie information, etc. C'est un coût, donc il faut assurer ce coût-là. Moi, quand je parlais de se vêtir, se loger, se nourrir, c'est des besoins primaires, mais pour ça, on paye. On paye un loyer, on paye des vêtements, on paye de la nourriture. Si on veut être bien informé, bah oui, ça a un coût. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire payer 1000 euros par mois à chacun pour être bien informé, mais ça coûte de l'argent. Être bien informé, comme je disais, c'est puiser un peu partout, et donc il faut du temps et il faut de l'argent, parce que vous allez acheter un journal, deux, trois, vous allez comparer, vous allez voir un peu ce qu'il y a dedans, etc., et ça coûte de l'argent. Et puis les rédactions qui, elles, sont en manque d'argent, bah oui, ça c'est vrai. Je pense notamment à France Télévisions, Radio France, ils ont perdu 8 millions d'euros de financement cette année par rapport à l'année précédente. Bon, bah c'est faut faire avec. Les rédactions, elles doivent continuer à bosser, à informer les gens, etc. C'est du service public. Bon, bah s'il y a moins d'argent, bah il y a moins de moyens. Et s'il y a moins de moyens, les journalistes pourront plus difficilement faire leur travail.
Mais à côté de ça, il y a des journaux, on a cité tout à l'heure le Canard Enchaîné, mais ouais. C'est un exemple, un beau contre-exemple de ce qui marche et qui est quasiment indépendant.
Ouais, qui est gratuit, etc. Mais voilà. En fait, toutes les critiques qu'on peut faire à l'égard des journaux payants en disant Le Figaro, ça appartient à Serge Dassault, donc on n'aura jamais un article à charge sur Serge Dassault, etc. Très bien. Après, on peut aussi se pousser la réflexion en disant est-ce que Mediapart ou le Canard Enchaîné qui ont des autres modèles économiques, est-ce que ces autres modèles économiques les poussent pas à exagérer l'information de temps en temps? Je sais pas, j'ai pas de preuves là comme ça, évidemment, mais c'est une question qu'on peut aussi se poser. Il y a des affaires qui ont été révélées par certains médias qui se disent indépendants, pour lesquels seul public est l'actionnaire du journal, entre guillemets, etc. Mais on peut se dire, mais il y a certaines affaires qui ont débouché sur rien, donc est-ce qu'on n'a pas tendance à, parce qu'on est trop libre, à exagérer l'information? C'est une réflexion qu'on peut avoir. Je suis pas sûr qu'il y ait un modèle économique parfait. Quand on travaille par exemple au Figaro, bah ouais, on accepte un peu la concession de pas forcément faire d'articles sur Serge Dassault, et puis si un jour on a un scoop sur lui, etc., bah peut-être qu'on acceptera à ce moment-là de le faire à Libération et de travailler pour Libération. Voilà, c'est encore une fois la chance du pluralisme, c'est que de toute façon, si vous n'avez pas une telle enquête qui sort dans tel média, vous aurez quand même de grandes chances qu'elle sorte ailleurs.
Donc, oui, ce qui n'est pas dit chez l'un et voilà. Dit chez l'autre.
Donc moi, pour moi, il n'y a pas de modèle économique parfait. Je pense que tous sont intéressants et tous les médias qui existent avec leurs différents degrés de liberté est intéressant. Ça fait partie du pluralisme et moi je me réjouis à chaque fois qu'il y a un titre de presse qui sort, tenter qu'il fasse vraiment de l'information, pas que ce soit un organe de propagande, ça c'est autre chose.
Le journaliste, c'est aussi celui qui met en lumière certains problèmes. Et d'ailleurs, il y a eu plein de scandales qui sont venus grâce au travail des journalistes. Je pense aux Panama Papers, je pense aux histoires des prêtres pédophiles. Toutes ces histoires, c'est aussi Ça devrait redorer un peu le blason du journaliste. Et d'ailleurs, je reviens à votre livre qui s'appelle Journaliste, l'ennemi qu'on adore. Il y a un peu un double sens dans ce titre.
Ouais.
Mais donc, est-ce qu'on peut adorer aussi ce côté-là du journalisme puisqu'il nous apporte
une
information?
Mais encore une fois, je pense que la confusion entre je insiste là-dessus, mais entre ceux qui commentent et ceux qui informent est grande chez le public. Parce qu'on a l'impression, par exemple, quand on allume BFM TV, qu'on a quatre éditorialistes sur le plateau, on a l'impression que c'est des journalistes. Parce qu'eux-mêmes, d'ailleurs, se revendiquent la plupart du temps journalistes. Bah oui, mais il y a une différence entre ceux qui vont se servir d'une information pour la commenter, donner leur avis, leur opinion, etc. Et puis ceux qui font une enquête, qui prennent du temps, qui interrogent des gens, qui tendent leur micro à n'importe qui pour faire cette enquête, etc. Là, il y a deux formes de journalisme. La première est un peu détestée, parce que les gens sont méfiants, ils en ont marre des gens qui donnent leur avis sur tout. Et l'autre est plutôt reconnue, ouais, parce que je parlais des journalistes de guerre tout au départ de l'émission, en disant que pour moi, ils bénéficient encore de la gratitude du public, etc. Bah, ceux qui mènent des longues enquêtes, etc., en général, sont plutôt respectés, à juste titre, parce qu'il y a un vrai boulot derrière. Mais vous savez, lors de l'élection de Fillon, il y a Franz-Olivier Gisbert, donc éditorialiste au Point, qui est très connu parce qu'on le voit partout dans tous les médias, etc., qui a fait un tweet en disant « Trump, virgule, Fillon, trois petits points, les derniers enseignements devraient nous remettre en question, nous, journalistes ». Il y a une journaliste de France Info qui s'appelle Mathilde Lemaire, qui est beaucoup moins connue médiatiquement, parce qu'on l'entend à la radio de temps en temps, mais on la voit pas publiquement sur les plateaux télé, qui lui a répondu par une tribune en disant « S'il y a des gens qui doivent se remettre en question, c'est vous qui êtes en costume cravate sur les plateaux télé H24, qui donnez un avis sur tout, mais nous, en tant que journalistes, on tend le micro à un ouvrier, à un agriculteur, à un artisan, donc nous, on fait juste rapporter l'information. » Et je pense qu'elle a raison. Et d'ailleurs, elle a reçu à l'époque beaucoup de soutien d'autres journalistes.
Tu parles justement des éditorialistes qui donnent un peu leur avis sur tout. J'aimerais qu'on parle un peu de la télé et d'un problème qui devient peut-être récurrent pour les journalistes télé. C'est le problème... Je ne sais pas s'il faut voir ça comme un problème, mais des consultants télé, parce que eux aussi, leur rôle, c'est d'apporter une expertise, leur point de vue, sauf qu'ils prennent de plus en plus la place, finalement, du journaliste, sans pour autant apporter la plus-value qu'apporterait le journaliste.
Mais en fait, moi, je ne suis jamais contre l'avis d'un expert, quelqu'un qui peut avoir 30 ans d'expérience dans un domaine, qui a vécu, qui a aussi des connaissances historiques, culturelles, etc. C'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, je suis en général pas contre l'éditorialiste, parce que c'est pareil, quelqu'un qui a été journaliste politique pendant 30 ans, etc., il a un apport qui est toujours intéressant pour comprendre une situation. Mais moi, ce que je reproche, c'est pas tellement les personnes, c'est plutôt la mode. C'est la mode qui consiste à supplanter l'information par le commentaire. Moi, que vous mettiez des experts sur les plateaux télé parce que, je sais pas, il y a un crash d'avion, donc on fait amener un expert dans l'aéronautique, etc., c'est toujours intéressant d'avoir son avis. Après, si c'est pour l'avoir en boucle pendant 10 jours et finalement on n'apprend rien de l'enquête de départ qui est le crash d'avion, là c'est plus gênant. C'est la place qu'on laisse à ces personnes-là qui est la vraie question. Après, qu'on fasse venir des experts ou des consultants, des gens qui connaissent bien le domaine, ça ne me choque pas, d'autant plus que, par exemple, en science, pendant très longtemps, les journalistes étaient beaucoup critiqués par les scientifiques parce que, justement, ils faisaient pas assez appel aux scientifiques. Et du coup, dans leurs articles, ils disaient un peu des conneries. Et les scientifiques disaient « Mais ouais, mais vous faites jamais appel à nous. » Et résultat, vous dites un truc dans un article, c'est faux. Et ça peut avoir des conséquences graves parce que si on commence à lire un article scientifique qui est faux et qu'on commence à le croire, bah, ça peut avoir des problèmes. Donc moi, faire venir des experts, même si le mot est de temps en temps un peu galvaudé, je serais toujours pour. Après, c'est faut faire attention à la place qu'on leur laisse dans l'information. Il ne faut pas que ça supplante l'information.
Le journalisme, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu le vois comment, toi, personnellement ?
Eh bah, c'est compliqué parce que s'il y a 15 ans, tu posais la question à un journaliste, la même question, je ne sais pas s'il aurait pu te dire pour Twitter, Facebook, etc.
Ah oui.
Donc c'est compliqué, il y a des choses qui évoluent. Ce qui est vrai, c'est que maintenant, il y a un double défi. Non seulement les journalistes doivent informer le public, mais en plus, ils doivent lutter contre la mauvaise information, contre les fake news, etc. C'est pour ça que il y a des plateformes qui se sont créées, comme les Décodex, l'IB Désintox ou les choses comme ça, parce que en plus de dire, bah voilà, il s'est passé telle chose dans le monde, on doit dire, non, contrairement aux rumeurs, il s'est pas passé telle chose. C'est assez marrant d'ailleurs à regarder, parce que vous allez sur les sites d'information et vous voyez des articles en disant, le titre, c'est non, machin truc a pas dit ça. Alors quand il réfléchit, c'est surréaliste parce qu'on est en train de dire ce qui n'a pas existé. Mais oui, mais on est obligé de le faire parce qu'il faut lutter justement contre les sites de désinformation, les fake news, quelquefois qui sont souvent mal intentionnés et quelquefois qui sont des organes de propagande politique.
On va revenir maintenant exclusivement sur ton livre. Je le rappelle aux auditeurs, un livre qui est paru le 15 septembre, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle Journaliste, l'ennemi qu'on adore. Alors déjà, pourquoi avoir écrit un livre
Bah,
sur cette thématique-là?
c'est vrai qu'à 27 ans, et puis j'ai que 5 ans d'expérience, donc ça pourrait paraître un peu prétentieux de parler d'un métier qui, justement, que je découvre encore, parce que j'ai pas 40 ans d'expérience. Mais ce qui m'intéressait, c'était bah, le paradoxe dont on parlait au départ, c'est pourquoi un métier qui, moi, me fait rêver depuis tant d'années, suscite autant la méfiance. Et puis, quand j'ai commencé, on sentait déjà pas mal de méfiance vis-à-vis de ce métier. Quand j'arrivais en soirée, vous savez, quand on arrive en soirée, on a des amis d'amis qu'on connaît pas
Bonjour, comment
forcément,
ça va? Qu'est-ce que
et
tu
on se
fais?
présente
Et voilà.
exactement. Et quand je dis que je suis journaliste, bah, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, ah, t'es journaliste, bah tiens, parlons-en, etc. Et donc, du coup, je trouvais ça intéressant. Et puis, il y a 5 ans, le sentiment de méfiance était déjà présent, et je trouve que ça s'est empiré en fait jusqu'à l'année électorale qu'on vient de vivre. Et du coup, ça m'intéressait de comprendre bah, pourquoi. Et j'en en parlais hors micro tout à l'heure. J'ai fait une conférence à Paris il y a une dizaine de jours avec d'autres journalistes, et le thème c'était journalistes, pourquoi sont-ils détestés? Et au départ, donc on présente un peu notre métier, notre parcours, etc. Et puis notre vision du métier. Et après, il y a une séance de questions-réponses avec les gens, et il y avait une 100, 150 personnes à peu près dans la salle, et les gens étaient très très méfiants au départ. Chacun avait son anecdote du moment où les médias les ont déçus, etc. Bon, t'avais les électeurs de droite qui parlaient de Fillon, t'as, je sais pas moi, des gens de gauche qui disaient, vous avez vu le traitement que vous avez fait subir à François Hollande pendant 5 ans, etc. Et puis même pas que sur la politique, plein plein d'événements. Et le fait d'expliquer ce métier, de répondre à leurs questions, d'expliquer ce que c'est que ce métier, les freins, etc. Bah déjà, ça a apaisé le climat. Et à la fin, les gens étaient plutôt contents de ce débat-là. Et j'ai aussi voulu l'écrire pour ça, pour expliquer un peu ce qu'était ce métier et d'expliquer bah voilà quelles sont les difficultés qu'on peut traverser en tant que journaliste et les opportunités aussi évidemment. Et puis c'est à la fois j'essaie à la fois d'être réaliste un petit peu sur les travers des journalistes parce qu'il y en a. Et en même temps, c'est aussi un hymne à l'amour envers ce métier, parce que je pense que c'est un beau métier, que c'est un métier qui est encore utile aujourd'hui.
Où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? Est-ce que tu peux nous parler un peu des modalités? Et d'ailleurs, est-ce que tu as eu des difficultés à le faire publier ou pas?
J'ai pas eu trop de difficultés, je pense que j'ai plutôt eu de la chance parce qu'en fait, d'habitude, on attend quand c'est un premier livre qu'on n'est pas connu,
Eh oui,
etc.
voilà, c'est.
On attend pas mal de temps après avoir envoyé les manuscrits. Là, en l'occurrence, ils m'ont répondu en un mois et demi, donc contrairement à d'autres livres, à mon avis, qui prennent plutôt 4 mois. Donc là, c'était plutôt un coup de bol. Après, bah, vous le trouvez dans les grands réseaux de distribution, voilà, Fnac, Amazon, et dans certains libraires. Après, les libraires, c'est toujours la même chose. C'est s'ils estiment qu'ils peuvent les vendre, ils en commandent, quoi. Ça dépend. Je ne suis pas assuré qu'il y ait 50 exemplaires dans chaque librairie. Ça, c'est au bon vouloir des libraires.
Alors j'ai regardé un peu par curiosité sur Internet, hein, parce que
Ouais.
maintenant tout se passe par
Bien sûr.
Internet, heureusement ou malheureusement d'ailleurs, selon les points de vue. Il y a des bonnes critiques pour le moment de votre livre,
Ouais.
des gens qui ont apprécié,
Ah bah j'ai
et
pas vu.
notamment sur le côté,
Non,
bon,
j'ai pas vu.
notamment sur le côté factuel, c'est un livre. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu, qui recense beaucoup de faits par rapport
Ouais,
à
enfin,
cette thématique du
disons que
journalisme?
pour parler des torts des journalistes, ou du moins de ce qui peut être reproché aux journalistes, même si c'est pas forcément leur faute, faut forcément l'illustrer de faits, de voilà, d'événements qui parlent un peu à tout le monde. Alors bon, je parle d'événements au Maroc, je parle d'événements, je parle de l'affaire Strauss-Kahn, je parle de la politique, etc. Parce que pour que ça parle aux gens. Après, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'expliquer donc ce que c'est que ce métier, ses évolutions, etc. Et ce qui peut porter à confusion dans l'esprit des gens. Et puis, j'ai voulu faire en sorte que du livre ne ressortent pas seuls les journalistes comme seuls coupables, qu'il n'y ait pas les journalistes comme seuls coupables. Je pense qu'il y a une triple équation. Il y a le grand public qui doit être conscient de ses responsabilités et de son influence et de son pouvoir quelque part sur les journalistes. Les journalistes qui doivent, eux, s'appliquer à faire leur métier, à informer plus qu'à commenter. Et puis, bah, tous les dirigeants des médias, etc., qui de temps en temps doivent prendre des risques. Il y a quelques émissions de télévision qui auraient peut-être mérité plus de vie, parce qu'elles étaient intéressantes, elles informaient bien les gens, etc. Et puis, bon, bah, on les a coupées avant l'heure parce que ça marchait pas, etc., parce qu'on n'a pas forcément laissé le temps aux produits de vivre et de marcher, quoi. Donc voilà, c'est une triple équation qui est dure à résoudre, mais par laquelle il faut passer.
Alors tu vois, moi j'ai pas eu le temps et j'ai pas pu lire ton livre. C'est typiquement ce qu'un journaliste ne doit pas faire en fait.
Et
C'est ça.
bah ouais, bon, heureusement, on en a parlé un peu avant.
Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que le travail du journaliste, c'est aussi recouper les informations et puis vérifier les faits et déjà de s'informer à la base le sujet sur lequel on va parler.
Bien sûr, je ne te félicite
Ça
pas.
m'apprendra. Est-ce que, dernière petite question, est-ce que dans ce livre, tu donnes aussi la parole aux gens qui disent ouvertement détester les journalistes? Est-ce que tu leur donnes
Alors,
la parole?
y a eu beaucoup d'interviews de journalistes, d'éditorialistes, de sociologues des médias par lesquels je suis passé pour écrire ce livre. Après, c'est très dur. Évidemment, je me sers des critiques que j'ai entendues moi, que tous ceux que j'ai interviewés ont entendues, etc. Après, c'est très dur de prendre une personne en disant qu'est-ce que tu penses des journalistes, parce que chacun ira de son avis. Tu peux pas généraliser une critique sur l'avis d'une personne. En général, le fait de discuter avec des collègues, puis pas. Bah, tous ceux que j'ai pu interroger, interviewer pendant plusieurs mois, en fait, on comprend vite que les critiques sont les mêmes, en fait. Donc, c'est assez facile de comprendre, voilà, ce sur quoi il faut répondre dans le bouquin. Après, moi, j'ai pas la prétention de dire que ce bouquin résume tous les torts qu'on reproche aux journalistes. C'est un avis, c'est un point de vue. Moi, justement, ce bouquin, il a pour ambition d'ouvrir le débat sur quelque chose qui est important, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un besoin vital de s'informer. Tout le monde peut être amené à se poser la question de comment on s'informe, est-ce qu'ils nous mentent pas, etc. Voilà, le bouquin a juste la prétention d'ouvrir le débat. Il n'a pas la prétention de parler au nom de tous les journalistes, d'une part, ça c'est pas du tout le cas. Et de deux, il a des imperfections, comme il y a toujours des imperfections dans des premiers essais, dans des premiers livres.